Deuxième entretien avec Georges Lavaudant, metteur en scène.
Georges Lavaudant, comment faites-vous pour aborder Tchekhov? Je rappelle qu'il y a Platonov et aujourd'hui la Cerisée. Est-ce que vous lisez, par exemple, la correspondance de Tchekhov pour connaître les indications? Est-ce que vous essayez de vous remémorer toutes les mises en scène qui ont sévi pendant presque un siècle, de Stanislavski à Georges et Sacha Pitoyev et Antoine Vitesse et les autres, pour essayer de cerner quand même une œuvre assez difficile dans le non-dit, dans le secret, dans l'indicible, dans l'indiscernable?
J'allais dire, je le connais peu et pas mal. Je le connais peu parce que j'ai monté dans le fond qu'une pièce de lui en 30 ans de pratique. Donc j'ai eu à l'affronter pour de vrai, si on dit ça comme ça, assez rarement. Par contre, j'ai l'impression de le connaître un peu parce que comme c'est vraiment un auteur avec lequel je me sens très en phase, effectivement, j'ai lu sa correspondance, j'ai lu ses nouvelles, j'ai lu toutes les autres pièces, j'ai vu de nombreux spectacles ou de nombreuses mises en scène de ses textes, qui sont peu nombreux d'ailleurs, hein, faut le rappeler, c'est quoi, 5-6 pièces, je sais pas, je parle pas des petites pièces en un acte, voilà, je suis un peu dans la moyenne, si on dit ça comme ça.
Alors, Platonov, comment l'avez-vous abordé? Parce que je me souviens de la mise en scène qui est assez remarquable, où les personnages se trouvaient entre le vide et véritablement un mur extrêmement haut et qui barrait absolument tout l'horizon.
Je crois que beaucoup de metteurs en scène, si vous voulez, lorsqu'ils ont à affronter un certain nombre d'auteurs, qui sont peu nombreux d'ailleurs dans l'histoire du théâtre, ils doivent faire cette espèce de premier pas un peu terrifiant. Je sais que pour certains camarades, c'est Shakespeare, ils n'ont jamais voulu l'aborder, ils se sentent incapables, ils tournent autour. D'autres, ce sera Molière, d'autres, ce sera effectivement Tchekhov. Moi, j'ai abordé effectivement Tchekhov par Platonov, parce que dans la tradition, un peu comme ça, dans l'espèce des lieux communs qu'on raconte sur Tchekhov, Platonov semble la pièce la plus malhabile, je mets bien sûr beaucoup de guillemets à cette chose, la plus fraîche, la plus jeune, la moins bien foutue. Donc on a le sentiment d'aborder plutôt un matériau que d'aborder, disons, une pièce tellement construite, écrite, comme le seront les pièces de la maturité. Donc moi, j'ai un peu plongé dans cet univers de Platonov, et c'est vrai que j'avais envie d'un dispositif scénique un peu radical par rapport aux mises en scène que j'avais vues. À l'époque, cela étant, Platonov n'était pas encore aussi monté que ces 10 dernières années. Et donc c'était pour moi, une manière de découvrir vraiment, je le redis, dans la langue même, les choses de Tchekhov.
Alors, vous avez dit radical à propos de Platonov et du dispositif scénique, ce qui n'est pas faux. Bon, le sommeil, le murmure sont assez présents chez Tchekhov. Et on avait affaire chez vous à un entonnoir. Vous savez que l'usage de l'entonnoir, en général, est vertical. Or, vous, il était couché sur la scène. Je n'exagère pas.
Oui, il y avait un peu cette idée-là. Enfin, avec Jean-Pierre Vergier, qui était le décorateur, je me souviens qu'on avait eu cette... je sais pas, vous savez, c'est pas théorique, hein. Souvent, on a une intuition de quelque chose, et puis ensuite, dans le fond, c'est l'épreuve qui nous dit si cette chose était juste ou pas justifiée. Là, la chose qui était dans le fond radical, c'est qu'il y avait plus qu'une seule entrée. On ne pouvait plus rentrer qu'à court. On était coincé à jardin, donc tous les gens étaient fatalement obligés de se rencontrer, de parler, de se croiser ou de s'éviter. Ce qui donnait
dans une scène angulaire. Oui, tout se passait dans la pointe de l'angle.
C'est ça. Oui, hein, c'était un mur qui barrait la scène. On était coincé. Il n'y avait plus du tout de sortie à jardin. Et en même temps, ça obligeait à cette diagonale, à cette espèce d'alignement des chaises. Je ne veux pas dire que chez Tchekhov, on est souvent assis, mais il y a quand même une espèce de parole où les gens sont installés et puis se mettent à discuter. Surtout dans le premier acte de Platonov. C'est une réunion de famille élargie, si on dit ça comme ça. Et les gens ont besoin de s'installer, d'être à l'aise pour se mettre à bavarder.
Georges Lavaudant, vous avez déclaré à l'époque « Platonov meurt ». Et chez moi, cette évidence résonnait comme si la mort de Platonov n'était pas raisonnable.
Non, c'est parce que je me souviens plus exactement des dernières paroles de Platonov, mais enfin, c'est du style qu'est-ce qui m'arrive, enfin, comme si lui-même ne comprenait pas qu'il est en train de mourir, qu'il va mourir, pourquoi il y a cette espèce de hasard, de vengeance des filles et des femmes qui l'a fait souffrir. Il y a un vrai moment d'absurdité, mais réel. Encore une fois, c'est pas une. Ce qui est merveilleux chez Tchekhov, c'est qu'il n'y a pas de fond romantique, si vous voulez. Il n'y a pas d'abîme métaphysique. Il y a une espèce de réalité brute, humaine, comme jamais peut-être on retrouve. L'équivalent pour moi, c'est chez Mozart, si vous voulez. On l'a dit là aussi, c'est peut-être un peu un lieu commun. C'est le rire à travers les larmes à travers le rire, c'est-à-dire une évidence que la vie est une chose absolument merveilleuse, mais dont les énigmes ne seront jamais résolues. Et il y a un concret admirable, si vous voulez, de la vie chez ces deux auteurs, si on peut dire ça comme ça.
Est-ce que vous vous êtes servi d'un certain nombre d'indications de Tchekhov, même pour Platonov, qui est une pièce légèrement à part de la Cerisée, à part des Trois Sœurs, à part de d'Oncle Vania et de la Mouette. C'est un cri, oui. Platonov.
Là, pareil, je n'ai pas le souvenir. Je sais que Tchekhov donne quand même des indications assez précises. Il a des didascalies précises, mais c'est toujours comment on les réinterprète. Je me souviens qu'en tout cas, il y avait une volonté, enfin. Encore une fois, je crois que c'est la langue, ce sont les répliques qui comptent, ce sont moins les commentaires autour de ces répliques, et surtout de faire en sorte que chaque acteur comprenne bien au bout d'un moment que le sens n'est à chercher que dans ces mots-là. Il n'y a pas un arrière-fond, il n'y a pas un secret, il n'y a pas une chose qui serait au-delà ou en deçà. J'ai cité Mozart, c'est étrange parce que je sais qu'on est en train de faire une rétrospective des films de Ozu. Et je lisais un petit article, ça m'a fait penser à ça, où on disait Ozu, le maître du rien, le zen, le vide, etc. Et un critique japonais, il y a 4 ou 5 ans, a sorti un livre en disant non, c'est tout le contraire, c'est pas ça, c'est la vision européenne des Japonais. Et il y a aussi pas mal de lieux communs, comme ça, un peu, comment dire, conventionnels sur Tchekhov. Un, je pense pas que tous les textes aient les mêmes enjeux. Et deux, c'est moins ce qu'on a longtemps appelé la musique tchékovienne, ou cette espèce de non-dit qui est important. Dans le fond, Tchekhov dit beaucoup de choses.
Et vous pensez que le non-dit, ou le murmure, ou le chuchotement, sont des lieux communs qui ne sont pas justes à l'égard de Tchekhov ? Ou cette sous-conversation dont il serait possible de parler pour Tchekhov, cette espèce de murmure intérieur, ou de monologue intérieur, ou de dialogue intérieur.
C'est pas que ça serait pas juste, mais ça a peut-être été mis en avant, si vous voulez, de manière un peu trop exagérée. Parce que je le redis, il y a des tas de moments de crise, au contraire, dans Tchekhov. Il y a des disputes extrêmement violentes, il y a des déclarations politiques, il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a des gens qui veulent se sortir de leurs conditions misérables. C'est pas uniforme, si vous voulez. Il y a pas que cet aspect-là un peu chuchoté, discret, la discrétion. Ce qui nous frappe, c'est parce que c'est quelqu'un qui a hissé la hauteur de son langage, j'allais dire, à l'évidence de ce qu'il veut faire, lui. Pour moi, après Tchekhov, il y a Beckett, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le dernier grand classique. Et après, il y a Beckett. Mais donc, c'est quelqu'un qui arrive à une raréfaction, à une économie de langage absolument magnifique. Et justement, il faut pas trop exagérer, j'allais dire, ce qui serait entre les mots. Parce que s'il n'y a rien entre les mots, c'est que Tchekhov souhaitait qu'il n'y ait rien entre les mots. Hein, c'est tout. Il est là dans l'instant de la parole et il dit ce qu'il a à dire. Et entre, il y a probablement... c'est pas rien. Mais il y a la vie physique, si vous voulez. L'émotion, toute simple.
Au fond, vous êtes en train de me dire que Tchekhov, c'est la vie, mais de quel ordre la vie ? C'est de l'ordre du diagnostic, de la justesse du diagnostic qui viendrait, par exemple, de la condition de médecin ? Cette espèce de regard posé sur l'observateur, sur la condition humaine, ou au contraire, il y aurait une critique en creux, en négatif, où il serait plus à l'aise que dans le côté positif de la langue ?
Enfin, quand je dis que c'est la vie, si vous voulez, ou la, il faudrait bien s'entendre, c'est le contraire, bien évidemment, d'un auteur naturaliste. Hein. Il n'y a pas plus aussi anti-naturaliste que Tchekhov. C'est justement là qu'il réussit quelque chose d'unique. Quand je dis c'est le dernier classique, c'est en même temps le premier moderne. C'est-à-dire, il ouvre à une espèce d'extrême économie de langage. Et moi, j'ai l'impression, enfin, il y a effectivement peut-être ce regard de médecin. Je pense que son expérience du corps, de la vie, de la maladie, son expérience des camps, hein, vous savez qu'il a fait ce voyage absolument insensé à l'île de Sakhaline pour aller se rendre compte sur place, quand on parle des écrivains engagés d'aujourd'hui, c'est peut-être justement, c'est là où c'est merveilleux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va sur place, qui va voir les prisonniers de l'île de Sakhaline, qui en tire un récit absolument simple, j'allais presque dire dénué d'a priori idéologique. Et c'est chaque fois ça qui fait qu'il peut être complètement notre contemporain et présent. C'est parce qu'il n'a pas eu besoin, si vous voulez, de donner une grille de lecture supplémentaire.
Je comprends ce que vous dites, et cependant, la lecture de l'île de Sakhaline, le tsar, qui est un peu à l'origine des lois ou des règles, ou du règlement, devient sympathique sous la plume de Tchekhov. On n'en fait pas, le lecteur n'en fait pas un ennemi.
Oui, mais en même temps, si vous voulez, c'est très rare que quelqu'un puisse déjà se rendre sur place. Vous savez les conditions, enfin, c'était pas simple d'aller là-bas. Il a cette volonté déjà de se rendre sur place et il en fait pas des tonnes, justement. C'est-à-dire, il est le contraire des gens qui écrivent sur la misère du monde aujourd'hui, ou il est le contraire de l'écrivain qui se met en scène lui-même comme témoin de la chose qui est terrifiante de nos contemporains, qui nous donnent des leçons sur le monde d'aujourd'hui. Lui, Tchekhov est là, il arrive, il voit, il décrit, et puis il rentre, si vous voulez. Il n'essaye pas de tirer des leçons de morale de ces choses-là. Il témoigne dans l'économie de langage qui est la sienne.
Mais justement, est-ce que Tchekhov est face à l'incohérence, à un chaos? Et est-ce qu'il n'essaie pas d'y entrer, non pas avec une lime, chère à Montesquieu, mais par une sorte de minutie du récit, qui fait que cette minutie va permettre à l'incohérence de se morceler, ou de frayer un passage?
Je ne sais pas, lorsqu'on se trouve vraiment devant, enfin je dis, un grand écrivain comme c'est le cas pour Tchekhov, je ne sais pas quels sont les moyens exacts avec lesquels il arrive à se frayer un chemin. Je leur dis, en plus, c'est quand même assez différent, disons, les nouvelles ou récits, les pièces, et puis les témoignages, si on dit ça comme ça, sans parler des extraits, toute la correspondance, des lettres, de ces choses. Je crois que chaque fois, il a un point d'attaque qui est un peu particulier.
Restons dans le théâtre et abordons maintenant la Cerisée. Alors, je repose la question qui concernait Platonov. Comment travaillez-vous? Est-ce que vous appuyez sur des mises en scène antérieures, sur des indications, sur des vues de Tchekhov, ou bien vous n'en faites rien?
Si vous voulez, sur Platonov, encore une fois, il y avait beaucoup moins de références. Hein. Il y avait eu l'adaptation, on peut dire adaptation, que Paul Quentin avait fait pour Jean Villard, puis il y avait eu d'autres mises en scène, j'étais pas le premier. Mais relativement au moment où je l'ai monté, il y avait peu de spectacles. La Cerisée, c'est le contraire, on pourrait dire, je sais pas, il y a eu 30 mises en scène, il y en a eu 10 de marquantes, tous les grands acteurs ont plus ou moins joué Lopakhine ou d'autres rôles. Donc je connais certaines des mises en scène. J'ai lu la correspondance qu'il a entretenue avec sa femme ou avec Stanislavski ou avec les gens du théâtre d'art. Donc il y a comme une phase, si vous voulez, où on s'imprègne de tout ça, c'est précisément. Et puis il y a après une seconde phase où justement on essaie de l'oublier pour se remettre à nouveau tout seul devant l'affrontement avec l'œuvre, parce qu'autrement on serait paralysé, parce qu'on ne va pas pouvoir dire qu'on va à nouveau révolutionner la vision de la Cerisée. Mais il y a un moment où il faut évacuer un peu tout pour se remettre soi-même en tête à tête avec l'œuvre, lire la première réplique, puis la seconde, puis la troisième.
Pourquoi la Cerisée? Qu'est-ce qui vous touche dans cette pièce plus qu'une autre?
J'ai pas fait exprès, c'est presque au moment même où vous me me poser la question. Je me rends compte que j'ai souvent monté les dernières œuvres de certains auteurs. Enfin, j'avais monté Les Géants de la Montagne de Pirandello, j'avais monté certaines pièces de Brecht qui étaient pratiquement les dernières ou d'autres. Et c'est la dernière, si vous voulez. Donc il y a toujours l'idée qu'il y aurait quelque chose de testamentaire, qu'il y aurait un secret caché, qu'il y aurait une énigme à résoudre, qui vous donne une excitation supplémentaire par rapport à l'œuvre.
Quel est le secret de la cerisée ? Qui raconte quoi, au fond ?
On pourrait presque dire que ça raconte rien, parce que c'est ce thème traditionnel des gens un peu inconscients, ne se rendent pas compte du bonheur dans lequel ils vivent, possèdent une propriété absolument magnifique, ne s'en occupent pas, et petit à petit, le monde réel grignote leur espèce d'insouciance insupportable. Et finalement, cette merveilleuse propriété sur laquelle ils vivent, dans laquelle ils vivent, avec cette cerisée qui est pratiquement dans tous les dictionnaires, tellement elle est belle, ben voilà, elle est vendue sans qu'ils aient lever le petit doigt. On pourrait dire ça, c'est comment l'insouciance, si vous voulez, mène au drame, mais dans le fond, sans qu'aucun des protagonistes, à un moment, ne souhaite vraiment trouver une solution. Il y a une chose merveilleuse qui est de pousser, justement, cette espèce de refus de faire quoi que ce soit.
Raconté comme ça, ça fait, effectivement, c'est assez mozartien, hein. C'est l'insouciance qui devient une forme d'enfer.
Ben je sais pas, en tout cas, hein, je le dis, c'est un des aspects, c'est une des lectures possibles. Alors après, suivant les époques, encore une fois, suivant le moment où on a monté la pièce, il y avait des solutions possibles plus politiques ou au contraire plus poétiques, si je dis ça comme ça, parce que effectivement, en face de cette femme et de sa tribu un peu insouciante, il y a à l'inverse des gens qui s'occupent de ça, qui veulent résoudre les problèmes. Il y a un étudiant qui voit l'avenir de la Russie d'une autre manière, par la rédemption par le travail. Il y a d'autres qui voient ça par le capitalisme. On peut dire que Lopakhin, d'une certaine manière, se dit, bah tiens, ça y est, que on va cette propriété, on va en faire un magnifique camp de vacances et on va gagner de l'argent et ça vous permettra de le garder. Mais Lyubov, le personnage principal, cette femme qui revient de Paris et qui, dans le fond, va partir à Paris, elle est dans la dépense absolue au sens de bataille, c'est-à-dire sa jouissance, c'est tout perdre, quoi.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'insouciance, et ça renvoie quand même à l'état de sommeil, c'est-à-dire cette espèce de grâce qui fait que le réel recule ou s'en va, s'évanouit, s'efface.
Oui, c'est peut-être encore plus, justement, c'est peut-être encore plus marqué dans la cerisée. On a l'impression d'un espèce de rêve éveillé. Hein. Et effectivement, il y a ce coup de théâtre. Bon, la propriété est vendue, et peut-être un réveil, mais ce réveil, dans le fond, existe à peine. Immédiatement, ça y est, c'est le départ. On repart à Paris. Il y a une fuite en avant, il y a un déni de réalité, parce que cette réalité, non, elle est inintéressante aux yeux des personnages principaux.
Évidemment, le sommeil est assez présent dans le théâtre de Tchekhov. Et comment en rendre compte pour vous, metteur en scène ? Est-ce qu'il faut avoir affronté le silence, le chuchotement, le murmure, des syllabes à peine ébruitées ? Est-ce qu'il faut que le texte soit vraiment dit ou soit extrêmement effacé ?
Non, je pense, enfin, en tout cas, jusqu'à l'épreuve du réel que sera le plateau, je pense toujours que tout doit être dit, tout ce qui est écrit doit être extrêmement dit. Ensuite, il y a des nuances, comme on le dirait, quasi musicalement. Effectivement, il y a des fortés, il y a des pianissimo, il y a des choses suspendues, mais tout quand même doit être assumé comme tel dans l'écriture. On peut pas se permettre. C'est pas une écriture, on l'a dit au début, c'est pas une écriture c'est pas un enregistrement du réel. Donc, ce qui serait à moitié ou j'allais dire marmonné, ça n'existe pas. Ça existe. Si précisément, mais écrit comme tel, dans le personnage qui, lui, donc, restera obstinément et mourra avec le cerisé, qui est le vieux serviteur, Fierce, lui, il dit des paroles qu'on ne comprend pas. C'est, hein, écrit expressément comme ça, on dit qu'il marmonne, et chaque fois, les gens disent, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, on comprend pas, qu'est-ce que tu dis.
Bon, vous le savez bien, le lecteur qui lit une œuvre devient très vite un auteur, se met dans la peau de l'auteur. l'auteur Tchekhov est médecin. Il a plusieurs possibilités. Vous dites qu'il n'est pas du tout naturaliste, ce qui est vrai. Et cependant, il se protège derrière le dernier sujet possible, qui est le sujet le plus littéral, c'est la famille. Un père, une mère, des frères et des sœurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de se laisser acculer à la chose la plus évidente et au fond la plus universelle ? C'est-à-dire à faire parler toute une famille.
C'est aussi le fait qu'ils sont sur un... Ils sont sur un domaine, alors il faut quand même imaginer que cette famille, ce n'est pas la famille père, mère, garçon, fille, c'est une famille élargie, je dis c'est famille et tribu, parce que dans cette famille, il y a une fille adoptée, et puis il y a l'ancien serf qui est en train de devenir un vrai capitaliste, quelqu'un qui a de l'argent, et puis c'est le frère, c'est pas qu'il y a une bâtardise, si vous voulez, mais c'est quand même la famille élargie, si vous voulez, la famille rêvée, et puis il y a cet énorme problème qui est un peu un des enjeux pas oublié de la pièce, mais en même temps discret et tellement présent, qui est la mort du garçon, puisque le départ, l'origine un peu des folies de cette femme qui a fui le domaine pour aller faire la fête d'abord dans le sud de la France, puis ensuite à Paris, c'est la mort d'un petit garçon. Donc il y a toujours un trauma, un choc qui n'est pas mélodramatique, justement, mais il y a quelque chose qui est la pire chose qui puisse arriver justement à une famille, qui est la mort de l'enfant, c'est-à-dire la chose devant laquelle Dieu ne donne pas de réponse.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'insouciance, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour laisser vibrer le bonheur dans un tel climat d'effondrement, de disparition ?
Mais peut-être que... La leçon de Tchekhov, justement, c'est que le bonheur, c'est pas seulement d'être heureux. C'est d'être présent à l'instant de la vie. Et que les malheurs, dans le fond, sont une chose de la vie qui font la vie. Et c'est sans cesse ça qui est l'accompagnement de son œuvre, je trouve. C'est qu'il ne cherche pas. Il y a le grand cri, il y a toujours un personnage révolté qui dit qu'on ne devrait pas vivre comme ça, messieurs, vous vivez mal, enfin, je sais pas si c'est lui qui le dit, mais c'est la pensée de l'époque, allez, il faut travailler, il faut arriver d'être oisif, il faut trouver la rédemption par le travail, il faut changer la société, il y a toujours un personnage qui est dans cette revendication, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal par rapport au moment où Tchekhov écrit avant la révolution russe. Mais la leçon plus discrète, c'est au contraire que les épreuves de la vie, malheur compris, font la vie. Et que c'est là qu'il y a une leçon plus modeste, si vous voulez, dans le fond, mais beaucoup plus philosophique.
Mais comment vous comprenez qu'une telle modestie à l'égard du théâtre, ou même à l'égard du monde, une sorte d'humilité, une volonté de non-théâtre, une volonté de non-vie, que tout cela ait donné une œuvre Tchekhov aussi souvent représentée? Par exemple, rappelez-vous l'œuvre de Fernando Pessoa, presque la totalité de l'œuvre se trouvait dans des malles. Aujourd'hui, on publie. Et au contraire de Pessoa, cette œuvre s'est fait quand même largement connaître et largement a gagné les cœurs.
Je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste, j'allais dire, de l'instant ou du moment où ça s'est fait, j'allais dire, et comment tout d'un coup la liaison entre Tchekhov et le théâtre d'art s'est fabriquée. Mais je pense que dans ce sens-là, alors le théâtre d'art comme tel, avec bien évidemment Stanislavski à sa tête, même si Tchekhov n'a cessé de dénoncer la trahison stanislavskienne en rendant ses pièces beaucoup plus noires qu'elles étaient, en ne voyant pas que c'était des comédies, mais il y a quand même tout le travail effectué par ce théâtre. Et je ne sais pas si Tchekhov aurait eu... En tout cas, dans l'instant même où il est joué, donc de son vivant, quand même, c'est ça. Je ne sais pas s'il n'aurait pas eu, en quelque sorte, tout de suite ce succès. L'autre chose, probablement, qui compte beaucoup, c'est qu'il écrit merveilleusement bien pour les acteurs. C'est-à-dire, ça aussi, on le sait que ça fonctionne. C'est-à-dire, le moindre petit rôle chez Tchekhov n'est plus un petit rôle. Le personnage qui a quatre interventions sait qu'il a une présence, un vécu sur le plateau qui n'est pas du tout le vécu habituel des rôles secondaires.
C'était À voix nue, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale, réalisation Clotilde Pivin.